Chapitre 1. Mon enfance. Je vais commencer aujourd'hui un travail que je ne sais comment ni quand il se terminera, si toutefois il se termine jamais. Je vais toujours l'essayer. Je sais qu'à ma mort, il n'y aura personne, ni parents, ni amis, qui viendra verser quelques larmes sur ma tombe ou dire quelques paroles d'adieu à mon pauvre cadavre. J'ai songé que si mes écrits venaient à tomber entre les mains de quelques étrangers, ceci pourrait provoquer en ma faveur un peu de cette sympathie que j'ai en vain cherchée durant ma vie parmi mes parents ou amis. J'ai lu, dans ces derniers temps, beaucoup de vies, de mémoires, de confessions de gens de cour, d'hommes politiques, de grands littérateurs, d'hommes qui ont joué en ce monde des rôles importants. Mais jamais ailleurs que dans les romans, je n'ai lu de mémoires ou de confessions de pauvres artisans, d'ouvriers, d'hommes de peine, comme on les appelle assez justement. Car c'est eux, en effet, qui supportent les plus lourds fardeaux et endurent les plus cruelles misères. Je sais que les artisans et hommes de peine sont dans l'impossibilité d'écrire leur vie, n'ayant ni l'instruction ni le temps nécessaire. Quoiqu'appartenant à cette classe, au sein de laquelle j'ai passé toute ma vie, je vais essayer d'écrire, sinon avec talent, du moins avec sincérité et franchise, puisque je suis rendu à un loisir forcé, comment j'ai vécu, pensé et réfléchi dans ce milieu misérable, comment j'y ai engagé et soutenu la terrible lutte pour l'existence. Je vins au monde dans de bien tristes conditions. J'y tombai juste au moment où mon père, alors petit fermier, venait d'être complètement ruiné par plusieurs mauvaises récoltes successives et la mortalité des bestiaux. Je vis le jour le 29 juillet 1834. Deux mois après, mes parents furent obligés de quitter la ferme de Killihuan Gwengat en y laissant, pour payer leur fermage, tout ce qu'ils possédaient, jusqu'aux objets les plus indispensables à leur pauvre ménage. Ils vinrent à Quimper avec quelques planches pourries, un peu de paille, un vieux chaudron fêlé, 8 écuelles et 8 cuillères en bois. Ils trouvèrent à se caser dans un misérable taudis de la rue Villy, rue bien connue à Quimper pour sa pauvreté et sa malpropreté. Nous y restâmes 2 ans, pendant lesquels je fus constamment malade. Plusieurs fois, la chandelle bénite fut allumée pour éclairer mon passage dans l'autre monde. J'ai su tout cela, plus tard, par ma mère, et par d'autres personnes qui nous avaient vus dans ce triste bouge. Mon père, qui ne connaissait d'autre état que celui de cultivateur, ne trouvait rien à faire en ville, et nous étions 5 enfants à la maison, dont l'aîné n'avait pas 10 ans. Il trouva enfin à louer un penty au Gelenek en Erguéguabéric, et pouvait alors aller en journée chez les fermiers, où il gagnait de 8 à 12 sous par jour. Il faisait en hiver des fagots de bois ou de lande. Nous avions aussi un peu de terrain où l'on semait des pommes de terre, de ces pommes de terre rouges, grosses et très productives, qui étaient alors la principale nourriture des pauvres et des pourceaux. Là, mon frère et ma sœur vinrent à mourir, par suite sans doute des misères et des privations qu'ils eurent à endurer dans ce cloaque infect de la rue Villy. Je me rappelle, car j'avais alors 5 ans, cette triste et pâle figure qui n'avait pas changé en passant de vie à trépas. Je me rappelle avoir vu ma mère ramasser de gros poux sur la tête de ma sœur après sa mort. Mon père et ma mère eurent l'air d'être contents. Ils disaient que nous avions 2 anges dans le ciel qui prieraient Dieu pour nous. Notre maisonnée, du reste, ne diminua pas, car j'avais déjà un autre petit frère, et une sœur ne tarda pas à venir. Le Dieu d'Abraham avait dit: croissez et multipliez. Nous multiplions, mais nous ne croissions guère, car à 6 ans, je n'étais pas plus haut qu'une botte de cavalier. Cependant, le grand air de la campagne m'avait donné la vie, la santé et un peu de vigueur. J'allais alors tous les jours chez les fermiers des environs, demander à dîner. Après m'avoir bourré mon petit ventre de bouillie d'avoine, on me tenait encore des morceaux de pain noir et des crêpes moisies pour emporter à la maison. À 8 ans, ma mère me confectionna une besace, et j'allais dès lors, non plus dans une seule maison, mais de ferme en ferme, pieds nus, à peine couverts de quelques haillons sordides, récitant ma prière de porte en porte. Je rentrais le soir exténué, avec ma besace pleine de grossières farines, de crêpes moisies et de rognons de pain noir. Je continuais ce métier sans interruption jusqu'à l'âge de 10 ans et demi. J'étais la providence de la pauvre maisonnée. J'y apportais plus de bien-être que mon père, qui cependant bûchait aussi du matin au soir. Chose curieuse, et qui étonna bien des gens de nos environs, c'est que j'avais trouvé le moyen, dans ce triste métier et dans le milieu ignorant où je vivais, d'apprendre à lire le breton. Voici comment. Il y avait dans notre village, qui était assez grand, une vieille fille qui était restée à coiffer Sainte-Catherine, et qui ne s'occupait guère en ce monde que d'assurer son salut éternel. Elle avait été servante chez le curé, où elle avait appris à lire le breton, du moins dans son livre de messe et le catéchisme. Pour mieux mériter les grâces célestes, elle s'était donnée pour mission d'initier tous les enfants du village au saint mystère de la religion. C'était chez nous qu'elle venait faire le catéchisme, car elle aimait beaucoup ma mère qui lui racontait ses misères dans ce monde et la joie qu'elle avait d'être pauvre, puisque Jésus avait dit que les pauvres seuls seraient admis dans son royaume céleste. Ma mère savait aussi un grand nombre de cantiques édifiants, qu'elle chantait fort bien, d'histoires de revenants, d'hommes et de femmes enlevés par le diable au milieu de la danse ou engloutis en terre pour s'être moqués d'une croix en passant devant elle. Des âmes de riches obligées de rester dans les caveaux, les cavernes ou au fond des étangs pour garder leurs trésors jusqu'à la consommation des siècles. D'autres femmes venaient encore chez nous avec leurs grandes quenouilles et leurs longs fuseaux, accompagnées de leurs enfants, pour écouter les cantiques et les histoires, et aussi sans doute pour dire et écouter beaucoup d'autres choses. J'étais l'enfant gâté de la vieille fille, parce que j'étais gentil, disait-elle, docile et attentif, et parce que j'apprenais vite et bien. Au bout de 18 mois, je savais toutes les prières et tout le catéchisme sur le bout des doigts, et lisait mieux qu'elle dans son vieux livre de messe, tandis que les autres étaient encore, pour la plupart, à bégayer les premières leçons du catéchisme. Les trois quarts avaient renoncé à apprendre l'alphabet, et le reste était toujours dans les éternels B A ba, B O bo, B U bu. Je fis alors ma première communion avec un grand succès. Le curé, sachant que je savais lire, me donna un joli livre de messe. J'étais heureux et fier. J'étais cité en exemple aux autres enfants. Ce fut le premier jour de bonheur de ma vie. Et plus tard, alors que je sus un peu le français et que je vis un certain cantique sur un vieux livre, ce jour heureux me revint en mémoire. Dans ce cantique, il y avait un couplet qui disait « Te souviens-tu de ce jour plein de charme, où, de Jésus adorant l'humble croix, ton cœur enflé, tes yeux mouillés de larmes, tu reçus Dieu pour la première fois. Ô jour céleste, ô pure et douce ivresse, amour sacré, qu'êtes-vous devenu? Dieu se souvient de la sainte promesse, mais toi, chrétien, dis-moi, t'en souviens-tu? » Après ma première communion, je n'allais plus mendier. J'allais en journée avec mon père dans les fermes pendant l'été, et l'hiver, je l'aidais à faire des fagots ou à creuser des trous pour mettre des plants. À 13 ans, après les 3 communions réglementaires parmi les enfants, je trouvais à me placer comme 3e domestique dans une ferme. Mes débuts ne furent pas heureux. J'avais plus de volonté et de courage que de force. Je ne voulais pas perdre avec les autres domestiques, beaucoup plus forts que moi. Je fis tant d'efforts pour les suivre que bientôt je tombai malade et fus obligé pour me guérir de retourner chez mes parents. Ce fut en pleurant que je rentrai chez moi, où j'allais encore être à charge, là où il y avait déjà bien des bouches de trop. Je fis une terrible maladie. On crut encore une fois que c'en était fait de moi. Le curé était venu me donner les derniers sacrements. Les médecins, en ce temps-là, étaient complètement inconnus dans nos campagnes, et, ne l'eussent-ils pas été, nos moyens ne permettaient pas de les guérir. En revanche, nos pays bretons étaient remplis de prétendus sorciers et sorcières. Il en vint plusieurs me voir. L'un disait que mes côtes étaient tombées, l'autre que c'était l'os du sternum, enchar gallon. Vint enfin la vieille fille, mon institutrice, qui prétendit que c'était un sort qu'on m'avait jeté, par jalousie, à cause que j'étais plus savant que les enfants des riches. Il fallait donc, selon la béate fille, trouver quelque chose de divin pour combattre la puissance diabolique. Et pour cela, elle ne trouva rien de mieux que de promettre une bonne chandelle à Notre-Dame de Kerdévot, qui, en ce temps-là, était en grande faveur dans toute la Basse-Bretagne, et qui était justement dans notre commune. Elle conseilla aussi d'aller chercher quelques bouteilles d'eau à la fontaine, qui était auprès de la chapelle de cette bonne Vierge. Puis elle me dit de réciter le plus souvent possible des patères et des avés à l'adresse de cette divine mère, qu'elle allait elle-même supplier dans ses propres prières. Elle alla chercher deux bouteilles d'eau à la fontaine miraculeuse. Je récitai plusieurs patères et plusieurs avés, après avoir dégusté, matin et soir, un verre de cette boisson miraculeuse qui devait être, surtout à cette époque, plus propre à communiquer des maladies qu'à les guérir. En ce temps-là, Notre-Dame de Kerdévot jouissait d'une réputation et d'une vogue extraordinaires, à peu près comme celle dont jouit plus tard, à la Salette et à Lourdes, la Vierge de l'Immaculée Conception. Tous les enfants scrofuleux, les teigneux, tous les hommes et les femmes affligés de plaies variqueuses ou cancéreuses allaient se plonger dans cette fontaine et y décrasser leurs plaies. Ma mère et la vieille fille me recommandèrent surtout d'avoir la foi et une grande confiance dans le Sauveur du monde et en sa divine mère. De la foi, j'en avais alors de quoi transporter toutes les montagnes, et ce fut sans doute, comme disait la bonne fille, cette foi solide qui me sauva autant, sinon plus, que l'eau de la fontaine de Kerdévot. Au bout de 2 mois, je fus complètement rétabli, et je fus conduit par la vieille et ma mère, pieds et tête nus, porter une chandelle de 20 sous à la Vierge. Ce fut au printemps, et bientôt je retournai aider mon père à faire des fagots de lande. Puis, durant l'été, j'allais en journée au foin et à la moisson. J'avais alors 14 ans. Nous étions en 1848. Louis-Philippe était parti, et nos vieux paysans ne parlaient plus que de Napoléon, qui avait promis des croix, des médailles et des pensions à tous ceux qui avaient servi sous son oncle, et beaucoup de belles choses à tout le monde. Mon père avait aussi servi le vieux, au dernier jour. Il avait assisté aux dernières batailles de 1814. Il fut blessé aux environs de Paris et entra à l'hôpital, d'où, après sa guérison et après l'abdication de l'empereur, il fut renvoyé chez lui sans congé, sans aucun papier. Il ne pouvait donc pas certifier qu'il avait servi le vieux, et ne put rien obtenir du neveu, pas même la fameuse médaille de Sainte-Hélène ou de chocolat, comme on l'avait appelée. Il en fut un peu déçu et chagriné, surtout quand il pensait à cette balle qui était restée dans sa tête et qui, selon lui, était le meilleur des certificats de présence sur le champ de bataille. Note. Penti. C'est le mot qui sert en breton à désigner les misérables chaumières, composées en général d'une seule pièce, où s'entassent avec leurs familles les ouvriers agricoles et les journaliers. Anatole Le Braz.